Les podcasts
de Blast.
Karl Marx disait « C'est l'esclavage qui a donné de la valeur aux colonies. Ce sont les colonies qui ont créé le commerce du monde. C'est le commerce du monde qui est la condition nécessaire de la grande industrie mécanique. » C'est en s'appropriant cette analyse que Sylvie Laurent, historienne et spécialiste de la société américaine, tente de retracer la naissance de ce qu'on appelle le capitalisme racial. À travers son ouvrage « Capital et race », paru aux éditions du Seuil, l'auteur démontre comment le racisme est partie intégrante de la naissance du capitalisme. Esclavage, colonisation, expropriation des terres et accaparement des richesses, de Karl Marx à Malcolm X jusqu'à aujourd'hui Angela Davis, tous sont d'accord pour dire que capitalisme et racisme ne font qu'un. Bonjour Sylvie Laurent.
Bonjour.
Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes historienne et spécialiste des États-Unis. Et alors dans votre livre « Capital et race », vous prenez une date comme point de départ, 1492, et vous écrivez que c'est à ce moment-là que capital et race sont dès lors scellés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, la conquête des Amériques a été, dans les histoires telles qu'on se les est racontées en Europe, un moment de grande découverte, un moment d'émancipation. Et on a occulté, d'une certaine façon, alors que bien des penseurs anticoloniaux, et y compris des penseurs marxistes, l'avaient suggéré, que c'est le moment où un double rapport social se met en place. Le pré-capitalisme, le jeune capitalisme, se met en place avec la découverte de ce territoire de la crématistique, de l'amour de l'or, de la conquête éperdue de terres qu'il faudra domestiquer et transformer en marchandises, et un rapport social qui s'appelle la race, qui est tout à fait nouveau dans la mesure où se passe quelque chose avec la conquête des Amériques, comme la nécessité d'organiser la production et la prise de terres selon une hiérarchie qui, d'un côté, voit les Européens, qui ne se pensent pas encore blancs, mais ça vient très vite dans la vie de Christophe Colomb, et une population qui est destinée à fournir du travail gratuit. Et donc, l'idée selon laquelle il y a des apports à la production capitaliste, tels que la terre comme capital, qu'il faudra mettre au travail pour la première fois, et l'idée selon laquelle, de façon associée, de façon organique, il y a des peuples sur place qui, comme la terre, sont destinés à produire de la valeur gratuite et à travailler pour les Européens, prendra encore une nouvelle dimension lorsque, mettant en place non seulement le travail dans les mines, mais les premières plantations, Christophe Colomb fait appel aux esclaves africains. Donc, ça n'est pas comme si et le capitalisme et le racisme étaient complètement constitués, et certainement pas selon les modalités modernes que nous connaissons, mais avec ce territoire, il y a quelque chose qui se cristallise. Et je propose dans le livre de lire la conquête des Amériques et l'idée d'Amérique comme la matrice de ce qui deviendra une hydre, c'est-à-dire ce rapport de nécessité entre un capital devenant capitalisme et un rapport de race devenant racisme.
Alors, vous l'avez dit, vous prenez cette date comme point de départ, mais c'est seulement au début du XXe siècle que les penseurs commencent à faire le lien entre capitalisme et racisme, non ?
Alors, il y a des intuitions qui traversent tout le 19e siècle, mais il est vrai que la pensée critique du capitalisme, qui commence avec les premiers penseurs socialistes, puis ensuite la tradition marxiste, elle rencontre très vite les mouvements anticoloniaux. Et c'est une tradition que l'on a oubliée dans l'historiographie, et c'est une tradition qui est pourtant extrêmement parlante. J'ouvre le livre par une conversation imaginaire, une conversation qui n'a pas eu lieu entre Karl Marx et Martin Luther King. J'ai écrit une biographie intellectuelle de Martin Luther King, et je sais très bien à quel point pour lui, il ne faisait aucun doute que le trio fatal, le trio mortifère de l'impérialisme, du capitalisme et du racisme fonctionnait ensemble. Et dès ses 25 ans, il a lu Marx et il met en avant ce rapport de production tout à fait particulier qu'est le capitalisme dans la production d'un rapport racial qui fait que le travailleur noir a une position tout à fait particulière dans le procès de production capitaliste, et que il aurait aimé que Marx, qui lui-même a été tout à fait lucide sur la réalité de l'esclavage et du racisme aux États-Unis, mais aussi de la dévoration coloniale coloniale propre au capitalisme. Ce sont deux pensées qui, d'une certaine façon, avançaient comme des asymptotes dans la même direction, mais sans jamais véritablement se rencontrer. Et donc, je reprends toute une tradition dans le livre de gens qui ont parfaitement vu ça. De Fanon à Hannah Arendt, pardon, de Rosa Luxembourg à la tradition sud-africaine des penseurs du capitalisme racial. Donc, ce qui nous apparaît aujourd'hui comme quelque chose de très exotique est en réalité un lieu commun dans la pensée marxiste hétérodoxe, venue des périphéries et dans les cercles militants.
Mais Karl Marx n'avait pas fait le lien immédiatement entre capitalisme et racisme. Il avait saisi certaines choses, mais il les mêlait pas entre eux, si j'ai bien compris.
Marx est une figure qui suscite beaucoup de frustration, puisqu'il y a à la fois Marx et aussi Engels, il faut bien le dire, une très grande lucidité sur, par exemple, certains textes d'Engels extrêmement explicites sur la naissance d'une forme de capitalisme avec 1492. Engels explique dans une lettre très importante que cette double appétence pour l'accumulation d'or, cet amour éperdu de l'extraction de l'or, mais aussi la prise de terre telle que la bourgeoisie espagnole l'a rendue structurelle avec la conquête des Amériques, est un point fondateur, un point matriciel du capitalisme, et que cela suppose fatalement la consommation et l'exploitation de populations qui sont considérées comme structurellement indignes, y compris d'être exploitées par des formes qui deviendront salariales. Quant à Marx, on sait aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux sur sa compréhension du phénomène colonial, on sait qu'il a eu l'intuition, d'une part, que la plantation américaine était un paradigme capitaliste qui supposait la transformation du corps noir en moyen de production, mais aussi en marchandise, et que par ailleurs cette nécessité dans le processus d'accumulation primitive du capital, il y avait fatalement une expansion perpétuelle. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance économique, telle que par exemple des anthropologues comme Jason Hickel ont pu le reconceptualiser, c'est fatalement un rapport inégal entre un centre européen qui est le lieu du capital et de la machine capitaliste en tant que telle, et une conquête, une croissance éperdue sur des périphéries. Or, je le montre dans le chapitre, mais c'est bien connu, vous avez reçu Adam Schatz. Les travaux de Fanon nous disent qu'il est impossible d'avoir une logique coloniale sans logique raciale. C'est-à-dire l'idée selon laquelle la terre sur laquelle vivent certaines populations ne sera véritablement mise en valeur, ça, le thème de la mise en valeur est fondamental depuis le XVIIe siècle, sans que des Européens apportent le capital, les locaux, la terre et le travail, c'est une idée fondamentalement raciale, puisqu'elle suppose que certains peuples sont organiquement incapables de souveraineté sur leur terre et de souveraineté sur leur corps. Donc, lorsque je traverse cette tradition intellectuelle et aussi la réalité du capitalisme historique, puisque finalement, il y a de grandes théories abstraites de ce que serait le capitalisme, de ce qu'il a été, mais dans son incarnation historique, on voit qu'avec 1492, puis ensuite le XVIIIe siècle, le grand âge du mercantilisme a été véritablement le moment où le capitalisme européen prend sa forme, et celle-ci est irréductiblement liée à la logique raciale.
Est-ce que vous pouvez revenir plus en détail en quoi les États-Unis sont un peu le fondement de cette hydre entre capital et race, c'est-à-dire à la fois à travers donc le génocide des Amérindiens qu'ils vont exterminer sur place, à travers la traite de l'homme noir, en quoi sont-ils le fondement de cette hydre ?
Alors, la raison pour laquelle mon livre s'ouvre sur 1492, c'est aussi parce que, avec cette invention de l'Amérique, il y a une matrice intellectuelle. Donc, on en a parlé dans le rapport dans cette espèce de gestation du capitalisme et de la race. Il y a quelque chose de l'ordre du territoire idéal, parce qu'il offre une quantité de terre indéfinie, parce que la croissance s'y déploiera sans fin. Simplement, très vite, l'extermination des indigènes et l'esclavage tel telle que les Ibériques l'ont pratiquée pendant des siècles, à mauvaise presse. En particulier lorsque, au XVIIIe siècle, des penseurs du capitalisme tels Adam Smith conspuent ce mercantilisme qui est source de prédation aux Amériques. Et lorsque les États-Unis, l'année de la publication de l'Origine de la richesse des nations d'Adam Smith, se fondent, ils ont à cœur de purger le capitalisme, de purger la prise de terre, de purger cette croissance du capital sur un territoire indéfini, en se dissociant de la façon dont les Espagnols ont procédé. Et donc, toute la pensée capitaliste de l'ère libérale vont voir dans les États-Unis un bon capitalisme, un capitalisme exonéré, une nation qui finalement, par ce mouvement d'émancipation nationale, ne sera pas un mouvement colonial, ce qu'il est en réalité, mais sera quelque chose comme l'expression de ce que les Anglais ont toujours voulu faire, c'est-à-dire un empire de la liberté qui apporterait en réalité, par le travail libre, la propriété privée, le droit européen, une forme de capitalisme civilisé. Et les États-Unis vont se déployer de leur fondation en 1776 jusqu'à la fin de la conquête impériale, avec la prise des Philippines, de Cuba, au début du XXe siècle, avec cette idée qu'ils sont le capitalisme bienfaiteur, qui est une idée qu'on retrouve aujourd'hui. Et pourtant, ce discours qui a tant fasciné les Européens, et je montre dans mon livre comment de Smith, bien sûr, jusqu'au physiocrate français, mais aussi Hegel, mais aussi
Voltaire,
Tocqueville, évidemment, ce sont des penseurs du capitalisme qui va libérer, et ils voient dans l'Amérique cette version tout à fait purgée, cette version sauvée des affres de la violence raciale et qui permettrait, par la libéralisation et l'échange des connaissances et cette terre en abondance qu'il faut transformer en marchandise pour le bien de l'humanité, ils voient les États-Unis comme une terre élue, cette terre du capital et de la libération de l'humanité.
Vous dites ils voient cette terre, la terre d'élu, mais la terre d'élu pour les Européens, pour l'homme blanc, en fait, au-dessus du reste des autres civilisations.
Alors, c'est quelque chose, bien sûr, qui a participé de cette espèce de mirage. Et je parle dans le livre, c'est le chapitre central de Robinson Crusoe, parce que Robinson Crusoe est la parabole de cet imaginaire, de ce déni, de la réalité, de cette conquête d'une terre par un Européen. C'est le grand mythe de Robinson Crusoe, qui est une terre vide, une terre offerte par la Providence qu'il faudra transformer. Robinson Crusoe est, dans la grande littérature du capitalisme, le premier homo economicus, celui qui, en domestiquant la nature, en maximisant ses ressources et son temps de travail, fait advenir un capitalisme de liberté. Et les États-Unis rejouent ce mythe-là, c'est-à-dire qu'ils apparaissent comme ceux qui apportent le droit de vote, le lopin de terre, la maximisation des ressources. Et l'on oublie bien sûr que les États-Unis sont fondés évidemment sur la conquête génocidaire de tout un territoire qui, par la puissance d'un terrorisme d'État, a transformé une terre qui n'a jamais été offerte, mais une terre qui était occupée par de brillantes civilisations en un cimetière, et que la transformation de cette terre en valeur qui a permis l'expansion non seulement du capitalisme transatlantique, mais qui a porté le capitalisme européen sur les fonts baptismaux. Les historiens ont montré aujourd'hui que la raison pour laquelle l'Europe avait pris un avantage considérable dans son expansion capitalistique par rapport à la Chine, par exemple, qui jusqu'au début du XVIIIe siècle était encore un compétiteur potentiel, c'est parce que l'extraction de valeur des Amériques, d'abord les métaux, mais bien sûr essentiellement le travail agricole et puis l'ensemble des richesses produites par l'Amérique du Nord a été un avantage compétitif considérable, et c'est la plantation, et c'est l'esclavage, et c'est la prise de terre sur les Amérindiens qui a été à la source de cet extraordinaire envol. Donc on voit bien là à quel point les États-Unis sont véritablement ce territoire de la mystification qui encore jusqu'à aujourd'hui se vivent comme une terre de liberté perpétuellement offerte et qui permettra un capitalisme émancipateur, ce qui est vraiment le grand tour de passe-passe qui nous vient des États-Unis.
Alors, vous avez parlé de Robinson Crusoe, c'est vrai que moi, je l'ai découvert à travers votre bouquin, puisqu'on n'en parle vraiment jamais, mais en quoi Robinson Crusoe, justement, illustre ce capitalisme mêlé à la race? Ce que vous expliquez dans votre bouquin, c'est que l'auteur, en fait, il est fasciné par le capitalisme colonial.
Alors, Daniel Defoe est extrêmement intéressant puisque c'est quelqu'un qui a été central dans les débats intellectuels du début du XVIIIe siècle en Angleterre. Donc, l'Angleterre est déjà cette grande puissance coloniale qui prétend que elle va sortir d'un mercantilisme qui est peut-être un petit peu rétrograde parce que ce sont les Espagnols qui ont ces pratiques d'appropriation, de prédation, de protectionnisme, de grandes compagnies d'État, tout en étant en réalité la championne de ces grandes compagnies semi-privées, semi-publiques, ces compagnies commerciales qui ont délégation pour conquérir des terres et les mettre en valeur. Et Daniel Defoe participe avec d'autres à ces débats et il est champion de la suprématie britannique et de l'homme anglais qui seul est capable d'exporter sa domination sur des terres en mettant en valeur des territoires sauvages et barbares et sans que du tout quelque chose de répréhensible en découle. Et lorsqu'il écrit son grand roman, Robinson Crusoe en 1719, qui se présente comme un récit véridique, il offre à la modernité occidentale une parabole merveilleuse d'un homme, un marin anglais, un puritain, échoué sur une île. Il est seul. Et cette idée de la solitude de l'homme occidental qui, à partir de rien, crée une île prospère, merveilleuse, où il va survivre pendant des années, est une espèce de contre-récit absolu de la réalité de ce que dit Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, c'est l'histoire d'un colon qui arrive sur une île dont il perçoit tout de suite qu'elle est peuplée. Il en voit des traces, il en entend des sons, très vite il voit ensuite une empreinte et il est terrifié de la peur des cannibales. Il sait que cette île est peuplée par des indigènes, mais tout de suite, il y a un processus de déshumanisation, ils vont venir lui prendre ce qui est à lui. Et Robinson Crusoe est l'histoire d'un homme qui domestique la nature, donc il y a une éco-critique extrêmement intéressante qui est faite de Robinson Crusoe. Il tue des animaux, il tue les oiseaux, il fabrique une muraille, il prend des années et des années à se construire un mur pour se protéger des barbares. Et lorsque ceux-là arrivent, mettent le pied sur la plage, eh bien, ils les exterminent. Et c'est un rapport d'extermination aux indigènes qui se met en place.
Devais-je tirer sur ces Indiens cannibales, ces sauvages sans foi ni Dieu ? Tu ne tueras point, dit la Bible. Mais aussi, quand les justes sont heureux, la ville se réjouit. Quand les méchants périssent, ce sont des cris de joie.
L'un d'eux réchappe du massacre et Robinson Crusoe fantasme immédiatement d'en faire son esclave. Et cet homme qui arrive vers lui, qui immédiatement se met à genoux et met son pied sur sa tête et dit « Maître, je serai votre esclave », cet homme, il va l'appeler Vendredi. Il n'a pas de nom, il n'a pas d'identité, il devient Vendredi. Et dans toute l'historiographie et la gnose occidentale, ce rapport entre Robinson et Crusoe est un rapport amical, peut-être un peu paternaliste, mais c'est le rapport de quelqu'un qui est finalement capable d'amitié, d'empathie avec cet indigène qui est en réalité un esclave, qui travaillera pour lui, qui est efféminé, à qui, pour le civiliser, Robinson apprend les éléments clés du bon capitaliste, la propriété, le travail, la langue anglaise et peut-être même un peu de christianisme.
Si on avait des esclaves, quelle belle plantation on aurait. On serait riche.
Des esclaves ?
Et des prisonniers, si tu veux. Venus d'Afrique. De très loin, de l'autre côté de la mer, qui travaillerait pour nous. Et à vie.
Des prisonniers pour vie.
Oui.
Et pourtant, ce livre est la grande Bible, non seulement des défenseurs de la grandeur britannique, mais aussi dans l'histoire du capitalisme, et c'est ce qui m'a intéressé, tant de penseurs du capitalisme prennent Robinson Crusoe comme vraiment la matrice du capitalisme. C'est l'histoire d'un homme qui seul, à partir de rien, invente le capital.
Alors, vous expliquez aussi très bien dans votre livre qu'on vend l'idée à travers ce capitalisme, ce commerce international, que tout ça apporterait la paix dans le monde, ça apporterait l'entente entre les peuples. On efface en fait toute l'oppression qu'il y a des peuples qu'on colonise et on vend l'idée que ça apporterait la paix à travers un espèce de libre-échange. C'est ça.
Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur cette période particulière, ce nouvel âge, la fin du capitalisme marchand qui a commencé en 1492. À partir du XVIIIe siècle, en effet, le mercantilisme, hein, c'est-à-dire cette prédominance d'un capitalisme d'État dont on voit qu'il fait retour hein, en ce moment, qui défend une espèce de compétition, une vision agonistique de ce que seraient les marchés et la production de marchandises, elle prend au XVIIIe siècle une voie plus culturaliste avec l'idée selon laquelle, en effet, un nouveau capitalisme expurgé hein, de ses travers précédents apporterait prospérité collective et une forme de civilisation mondiale. Et on retrouve ça aussi bien chez les socialistes hein, que chez les grands défenseurs du libéralisme. Et une fois encore, cette espèce d'illusion est très présente chez Adam Smith. J'accorde une attention particulière à Adam Smith dans le livre parce que c'est incontestablement un penseur anti-impérial. C'est quelqu'un qui est tout à fait critique des errements d'appropriation, d'accaparement des terres et des richesses et qui en même temps est dans un très grand aveuglement quant à la réalité de ce que sont les États-Unis. Il perçoit les États-Unis comme l'expression de ce que pourrait devenir l'Angleterre un jour si elle parvenait à se réformer suffisamment, qui est l'idée selon laquelle ils sont une terre qui apporte à une poignée de sauvages disséminés ci et là une forme de modernité par le droit de propriété et le travail salarié. Et donc, en effet, il y a un effacement de cette logique-là pour l'Amérique du Nord, alors même que les Européens, qui à la fin du 19e siècle accaparent l'essentiel de l'Afrique et de l'Asie, défendent cette idée que contre l'esclavage qui est tout à fait barbare, contre la prédation violente qui est tout à fait barbare, on va substituer une colonisation douce qui, par le droit de propriété, le travail rémunéré dans les plantations et une forme d'organisation plus libérale, ce capitalisme accapareur de richesses prendra un visage plus humain, prendra un visage davantage conforme aux idéaux des Européens. Et donc, on est dans un nouveau régime d'intrication entre le capitalisme et la race, puisque ceux-là même qui se présentent comme des anti-esclavagistes conservent la plantation comme matrice.
Ils conservent leur supériorité, en fait.
Et ils conservent également le rapport fondamental, qui est un rapport inégal d'échange entre le centre européen et la périphérie, avec comme principe essentiel le vol du travail gratuit qui vient du Sud et le vol de terre. Et jusqu'à aujourd'hui, avec le nouvel extractivisme, qui rappelle hein, beaucoup les premières années de l'âge mercantile et notre ami Robinson Crusoe dans les mines d'argent, il y a cette idée selon laquelle c'est à moindre coût que ce travail semi-gratuit et que cette nature qui est mise au travail sera incorporée au processus de production européen qui pourra se targuer de ne devoir son succès qu'au travail tout à fait organisé dans les usines de Grande-Bretagne ou d'Europe continentale. Donc il y a toujours cette espèce d'effacement du soubassement impériale et coloniale, et lorsque les enfants de ces empires arrivent en Europe, parce que l'immigration est aussi le produit du capitalisme à la fois, parce que, bien sûr, les sociétés ravagées aux périphéries de l'Europe laissent une main-d'œuvre qui cherche à s'employer, mais aussi parce que, plus récemment, l'âge néolibéral produit un surplus de population dont les conditions de vie ont été rendues impossibles, a fortiori avec les crises climatiques, eh bien, ce surplus de population, c'est aussi une nouvelle forme de racialisation qui est le fruit du capitalisme. Et donc, cette fois, tel Robinson Crusoe, il faut à nouveau ériger des murs pour se jouer des différents statuts de travail entre celui qui a ses papiers et celui qui ne l'a pas, celui qui peut être exploité légalement et celui qui sera exploité au noir. Donc toutes ces matrices se réinventent. Bien sûr, le racisme du XVIe siècle n'est pas celui d'aujourd'hui. Le capitalisme a connu différentes configurations et il ne s'agit pas de dire que c'est évidemment la même chose. Mais il y a une structure longue. Et la structure longue, c'est que il n'est de pensée critique du capitalisme sans une prise en considération de cet autre rapport social qui lui est inhérent, qui est celui du principe de race. Et donc, à ceux qui ont prétendu que, par exemple, le néolibéralisme ne faisait de distinction aucune selon le genre, la race ou l'origine, on peut dénier justement cette longue histoire des manifestations capitalistes dans l'histoire.
Est-ce que là, tout ce que vous venez de dire pour la France s'illustre parfaitement lors de la conquête coloniale de l'Algérie ?
Alors, sur la conquête coloniale de l'Algérie, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Une fois plus, étant américaniste, je braconne assez peu sur les terres de mes collègues historiens du colonialisme français. Mais ce qui m'a tout à fait frappé, c'est de voir à quel point les grands libéraux des années 1830 sont tout à fait favorables à la conquête de l'Algérie, avec cette idée que l'on allait civiliser les barbares par le droit de propriété et que le modèle de la plantation, ce grand modèle américain de la plantation qui est par essence un modèle racial, pouvait être installé sur les pourtours de l'Algérie pour apprendre finalement aux indigènes à se servir de leurs terres. Et il est parfaitement documenté, en particulier comme en Kabylie, on a usé de la pratique de la dette pour s'approprier des terres et pouvoir faire des systèmes crypto-plantationnaires à la faveur de la venue des Européens. Mais quelqu'un comme Tocqueville, par exemple, qui est le grand théoricien de la démocratie américaine, sera capable de dire que cette grande expérience américaine devrait se méfier de l'importance de la question indigène et de la question raciale, bien qu'il soit loin de percevoir à quel point elle est essentielle, et dans le même temps un grand avocat de la conquête de l'Algérie. Il y a une certaine forme de point aveugle qui demeure, et on le voit en particulier dans la relation écrite entre Gobineau et Tocqueville, qui sont très proches, participent dans cette espèce de culturalisation du racisme. Le racisme est très mal, mais la supériorité de la culture et de la civilisation européenne, on en parle très tôt, et l'idée d'une mission civilisatrice qui ne serait pas du tout raciste commence à devenir un lieu commun, et on l'entend bien sûr tout au long du 19e et du 20e.
Alors, quand est-ce que le mot race, il est théorisé réellement ?
Alors, il y a différentes étapes. Le mot race existe depuis le Moyen-Âge pour parler d'un rapport de classe. C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il y a les races de sang pur, qui sont les aristocrates de vieille souche, et puis très rapidement, un langage crypto-racial pour parler de la plèbe, des gens qui vraiment par leurs conditions matérielles extrêmement dégradées sont assignés à une espèce de race à part. Et puis, c'est avec certainement l'Espagne médiévale, cette même Espagne dont partira Christophe Colomb, le Génois, pour conquérir les îles de la Caraïbe. Il y a quelque chose qui se passe avec une loi sur la pureté du sang qui est en place à la fin du XVe siècle en Espagne, qui vise à détecter dans l'organisme des juifs et des musulmans qui prétendent s'être convertis après la grande reconquête de l'Espagne, il y a cette idée selon laquelle l'impureté de l'origine se traduit par le sang. Et quelque chose de très particulier se passe à ce moment-là, c'est-à-dire que on rejette les juifs dans le rang de la race impure, on rejette les morts dans le rang de ceux qui ne seront jamais assimilables. Et Christophe Colomb est quelqu'un qui part aux Amériques avec cet arrière-plan de l'Inquisition et de la loi de la pureté du sang. C'est quelqu'un qui connaît très bien les plantations sucrières de Madère et de Sao Tomé, où déjà on a exterminé les indigènes pour faire venir une main-d'œuvre noire africaine traitée comme des bestiaux. Il est lui-même marié à une femme qui est d'une grande famille de plantationnaires sucriers de ces îles. Et donc, c'est cet homme du capital italien et du féodalisme espagnol déjà profondément imprégné de cette logique raciale qui arrive aux Amériques et qui transpose la canne à sucre, la plantation, l'extractivisme dans les mines, mais aussi cette idée selon laquelle il y a une hiérarchie raciale. Donc, il ne parle pas de race, Christophe Colomb. Il faudra attendre beaucoup de temps pour que les sociétés coloniales ibériques parlent très clairement de quelque chose qui serait racial. Mais tout de suite, il y a une police des Européens. Tout de suite, il y a des codes juridiques qui formalisent l'inégalité de valeur et de statut entre les indigènes, dont le destin, s'ils rechignent à travailler dans les mines, est simplement l'extermination, et surtout les esclaves africains, dont on sait très vite, dès la controverse de Valladolid, qu'ils sont conceptualisés comme organiquement, naturellement, bibliquement, destinés à la conversion et à ne faire qu'un avec cette terre dont ils doivent extraire la valeur. Il y a une vision extrêmement organique, matérielle.
À travers le corps.
Subhumaine, à travers le corps noir, qui deviendra aux Amériques non seulement un moyen de production, mais une marchandise, puisque les esclaves sont échangés, sont achetés, font l'objet d'une spéculation, qu'il y a des produits financiers vendus dans les bourses de New York ou de Londres, qui sont d'une certaine façon des investissements sur le corps des esclaves, qui sont ensuite transformés en actions, et les actionnaires européens peuvent acheter virtuellement le corps des esclaves. Et donc, il y a tout un travail sur les bourses, sur la main-d'œuvre, sur les ventes. Donc, il y a en soi un capitalisme de l'esclavage qui a été complètement redécouvert depuis quelques années par une tradition historiographique qu'on appelle la nouvelle histoire du capitalisme, qui montre à quel point ça a été là aussi complètement sous-évalué dans l'histoire du capitalisme.
Même quand on abolit l'esclavage, c'est toujours pour enrichir les propriétaires puisqu'on les dédommage à hauteur de grosses sommes d'argent.
Alors c'est très intéressant cette histoire de dédommagement. Hein. On voit aujourd'hui à quel point Haïti hein, s'enfonce toujours davantage dans une espèce de tragédie historique qui commence avec le fait que cette société qui a été créée pour être une plantation par excellence et n'être que cela, avec l'extermination des indigènes, une importation massive de main-d'œuvre africaine, mais une population qui se révolte et qui chasse les propriétaires des plantations, à ce moment-là a scellé son destin, puisqu'y compris on l'a condamné à verser, pour prix du dommage subi par les plantationnaires européens, une dette perpétuelle. Et donc ce néocolonialisme de la dette que les penseurs haïtiens, mais aussi sud-américains, ont conceptualisé depuis longtemps, est une façon de maintenir la dépendance de ces périphéries du capitalisme occidental et se traduit par la perpétuation d'une extraction de richesse sous forme peut-être pas de coton, peut-être pas de sucre, mais de dette.
Alors, Malcolm X a déclaré dans une phrase célèbre hein, « Vous ne pouvez pas avoir le capitalisme sans le racisme ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Il me semble que si l'on étudie le capitalisme historique, c'est-à-dire non pas tel que les différents théoriciens l'ont pensé jusqu'à il y a peu, il est indéniable qu'il y a eu une nécessité de l'accumulation primitive du capital sous une forme coloniale et sous une forme d'extermination et d'appropriation qui, depuis Christophe Colomb jusqu'à l'âge impérial du XIXe siècle, jusqu'au nouvel impérialisme aujourd'hui avec l'extractivisme et l'extraction du travail semi-gratuit venu du Sud, il y a une permanence non seulement de la production, mais de la perpétuation du principe d'inégalité raciale. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de système de relations sociales non capitalistes qui ne soit pas racialisant d'une certaine façon. Cela ne signifie pas qu'on est persuadé que si le capitalisme était aboli demain, le racisme disparaîtrait. Il y a différentes modalités, mais ce qui est indéniable, c'est que ce capitalisme qui nous gouverne, avec un ensemble de rapports sociaux qui, avec les différents âges, crise du néolibéralisme, âge mercantile, âge libéral, peut prendre différentes formes, a systématiquement reproduit cette idée d'une civilisation à laquelle il faudrait s'identifier et le principe selon lequel il n'y a pas de meilleure forme d'émancipation qu'un capitalisme peut être domestiqué, alors même que cette extension perpétuelle du champ de l'appropriation est fatalement, nécessairement, productrice de race et productrice de domination, ce qui ne veut pas dire que des peuples non blancs ne peuvent pas eux-mêmes être producteurs. On le voit avec l'Inde de Modi, on le voit d'une certaine façon avec les Ouïghours musulmans. Mais fondamentalement, historiquement, le capitalisme qui a inventé et qui a imposé sa matrice mondiale, c'est celui qui est né en Occident à l'âge moderne. Donc, on peut dénier ce que le capitalisme aurait pu faire. Beaucoup de journalistes aujourd'hui disent « Ah oui, mais le capitalisme aurait pu ne pas être esclavagiste, il aurait pu ne pas être colonial. » Il se trouve qu'il l'a été.
Est-ce que cette idée de capitalisme et de racisme imprègne toujours la société américaine? Je pense notamment à Donald Trump.
Ah oui, plus que jamais.
I will end the illegal immigration crisis by closing our border and finishing the wall, most of which I've already built.
Plus que jamais, c'est extrêmement frappant de voir à quel point ce que l'on présentait comme un programme populiste en 2016, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'impulsion raciale, mais qui était en réalité la volonté de redistribuer à ce pauvre travailleur blanc qui aurait été spolié. J'avais écrit à l'époque un livre qui s'appelait « Pauvre petit blanc » où j'essayais déjà de montrer à quel point parce que sa logique historique a été constituée comme telle, mais aussi parce que le personnage de Trump et l'ensemble de son discours politique étaient en cohérence avec des années de dérive droitière du Parti républicain, il s'agissait véritablement de repenser ce capitalisme mercantile qui veut qu'il ne revient qu'à l'occidental, donc à l'américain blanc, de pouvoir domestiquer cette terre que d'autres veulent venir prendre, ces nouveaux cannibales contre lesquels il faut ériger un mur de protection. Et aujourd'hui, que reste-t-il de cet apparent populisme de Donald Trump ? Essentiellement la rhétorique raciste. Et nous avons été à ce point immunisés. Il y a une telle normalisation de ce discours raciste que lorsqu'il parle des mauvais gènes, des gènes néfastes de ces immigrants, lorsqu'il parle de la contamination du sang de l'Amérique, lorsqu'il parle des Haïtiens qui apportent des maladies et qui mangent les chats et les chiens, il y a une volonté presque d'en rire, comme si c'était une espèce de nouveau Beppe Grillo, vous savez, cette espèce de bouffon qui ne croyait pas vraiment au racisme qu'il suscite, sans penser que l'ensemble de ces stimuli racistes, une fois de plus, construisent ce nouveau cannibale, cette figure mythique de celui qui va venir trucider dans votre sommeil et vous prendre votre petit capital. Et plus que jamais, j'en parle dans les livres parce que c'est important, l'une des nouvelles modalités du capitalisme, c'est le capital racial. C'est-à-dire cette idée sans laquelle il y a des jeux de spéculation, de surinvestissement, il y a une certaine forme de matérialisation de ce que serait l'identité blanche à laquelle certains hispaniques peuvent venir s'identifier, mais qui fondamentalement gardent certaines frontières intangibles. Et donc la nouvelle frontière du capital, c'est celle qui permet de dire qu'il y a le bon capitalisme occidental contre le capitalisme détestable des Chinois, ce peuple de couleur qui veut nous prendre notre hégémonie commerciale dans le monde. Donc là, le protectionnisme sera nécessaire et que ces masses de travailleurs, de populations en surplus que le capitalisme a produite et qui se rassemble à la frontière sud doivent être maintenus parce que ils sont y compris trop nombreux pour pouvoir être décemment exploités. Et si l'on pense que le capitalisme est aussi un rapport de classe, le racisme joue plus que jamais un rôle de pacification, c'est-à-dire que les travailleurs qui ont vu leur univers, leur paysage géographique, leur communauté être entièrement détruite par le néolibéralisme seraient tentés peut-être de se rebeller contre les exploiteurs, et l'on voit à quel point dans les États manufacturiers, il y a une demande de resyndicalisation très forte, leur apporter cette espèce de d'exutoire raciste est aussi une façon, pense le Parti républicain en tout cas, de se prémunir contre cette tension de classe qui pourrait finir par ressurgir avec, en effet, des travailleurs blancs qui réclament, et ça on n'en parle pas suffisamment, le triplement du salaire minimum, le droit de se syndicaliser, la fin des pratiques capitalistiques les plus brutales chez Amazon ou chez McDonald's, et que plutôt que de laisser s'épanouir cette espèce de revendication de classe, eh bien l'idée selon laquelle c'est le Mexicain ou l'Haïtien qui est source de tout vos tourments, c'est une vieille technique, hein, les marxistes depuis longtemps avaient montré ça, mais faut et de constater que c'est plus que jamais aujourd'hui ce qui irrigue cette campagne-là, qui n'est essentiellement qu'une affaire de capital et de race.
aussi à travers ce que vous racontez dans votre livre, moi, ça m'a fait penser aussi quand même beaucoup au modèle israélien, puisque j'ai beaucoup lu là-dessus. Je pense notamment aux penseurs du sionisme tels que Herzl, qui prend pour exemple l'Europe et le modèle colonial de l'Europe. Est-ce que le modèle israélien n'incarne pas aussi tout ce qu'on vient de dire là ?
Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans cette analogie avec l'expérience israélienne, qui est l'analogie très grande entre les États-Unis et Israël, puisque on s'interroge beaucoup aujourd'hui sur le soutien éperdu et inconditionnel des États-Unis vis-à-vis d'Israël. Et il me semble qu'un des éléments que l'on oublie trop souvent, c'est à quel point les États-Unis, lorsqu'ils se sont inventés, constitués, ils se sont vécus comme un nouvel Israël. C'est-à-dire que les puritains, qui étaient eux-mêmes très emprunts de cet imaginaire de l'Ancien Testament et de cette terre offerte par Dieu, se sont vécus comme les nouveaux Israélites. Et lorsque Israël s'est constitué, il y a une espèce d'expérience par procuration de ce que serait une société élue dont on dénie la nature coloniale. Et donc, cette chose très particulière de cette espèce de fraternité qui a fait peu de cas, par exemple, de la réalité selon laquelle les États-Unis ont, en 1923, adopté une loi restreignant l'immigration des populations d'Europe juive persécutées, alors que par dizaines de milliers, ils cherchaient à se réfugier aux États-Unis. Cette loi des années 20 a interdit, pardon, c'était 1924, a interdit aux juifs persécutés d'Europe, jusqu'à et pendant le nazisme, de venir se réfugier, et ce, jusque au milieu des années 40. Il y a donc une espèce de duplicité fondamentale dans cette espèce d'idée selon laquelle Israël est le petit frère, celui qui a à nouveau fait revivre cette idée de la terre élue, et puis la réalité d'une absence de présence des États-Unis lorsque les Juifs d'Europe en avaient besoin, ce qui a été l'une des grandes motivations du sionisme en Palestine, puisqu'il faut le rappeler, dans les années 30, la plupart des Juifs d'Europe ne voulaient pas aller en Palestine. Il voulait aller aux États-Unis, et que c'est faute aussi de pouvoir se réfugier aux États-Unis qu'ils ont été en Palestine, et que leur terre promise n'a pas été la Palestine. Mais si vous interrogez beaucoup de Juifs américains aujourd'hui, beaucoup d'entre eux vous diront que leur terre promise, ce sont les États-Unis et pas Israël. Donc il y a des échos qui sont tout à fait intéressants entre ces deux pays.
Merci Sylvie Laurent.
Merci à vous.
Et je rappelle donc que votre livre Capital et Race, Histoire d'une hydre moderne, est disponible aux éditions du Seuil.